un mot qui exprime alors complètement la fermeture dans votre liste, c'est le mot non.
Oui.
Non.
Mais vous savez, c'est important de savoir dire non.
André Chédid.
De savoir dire non à des tas de choses qui vous choquent, d'avoir un sens de la rébellion. Je crois que la poésie, d'ailleurs, c'est un peu ça. La poésie est rebelle avant tout.
Ça peut pas faire de mal.
La poésie est... Elle sait dire non à tout ce qui est fatras, tout ce qui est mode, à tout ce qui offense le visage de l'homme, vous voyez ? Des choses comme ça, oui. Je crois que c'est important de savoir ce que l'on aime, et de savoir ce que l'on n'aime pas, et de le dire et de le sentir.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevés. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur, où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Ce jeune homme qui marche vers l'inconnu, les poings serrés et le sourire aux lèvres, c'est Arthur Rimbaud. Il écrit ce sonnet, Ma Bohème, en 1870 à l'âge de 16 ans, alors même qu'il vient de fuir le domicile familial. Pour l'adolescent révolté, quitter les Ardennes et rejoindre Paris, c'est une seconde naissance. Le voici désormais seul et libre de vivre pour la poésie, celle qui peut véritablement, je cite, « changer la vie ». D'autres lui emboîteront le pas et feront de la poésie un élan, une aventure, une révolte et même une insurrection, pour reprendre le mot de Pablo Neruda. L'insurrection, c'est justement le thème de la 17e édition du Printemps des Poètes qui a débuté la semaine dernière. Jusqu'au 22 mars, de nombreuses manifestations sont prévues partout en France pour faire entendre la parole poétique d'hier et d'aujourd'hui. Ce soir, je vous propose de découvrir des poèmes qui invitent à regarder le monde autrement. On en a bien besoin. Et pour lire les textes de Mayakovsky, Desnos, André Chédid, Nazim Hikmet ou encore Aimé Césaire, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir une camarade de la Comédie Française, merveilleuse comédienne Clotilde Bézère. Commençons par la voix d'un immense poète, celui qui a fait de la révolte sa raison d'écrire et de vivre, Victor Hugo. Son recueil Les Châtiments paraît en 1853, un an après son départ de France, pour l'île de Jersey. Après s'être violemment opposé au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, il est contraint à l'exil et c'est loin de son pays qu'il s'adresse aux hommes libres, ceux qui n'ont pas cédé au chantage politique. Dans le poème suivant, qui a pour titre « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent », on retrouve toute la verve de sa plume et une foi inébranlable en l'avenir. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime. Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime. Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, ou quelque saint labeur ou quelque grand amour. C'est le prophète saint prosterné devant l'arche. C'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins. Ceux-là vivent, Seigneur, les autres je les plains. Car de son vague ennui, le néant les enivre. Car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Inutiles, épars, ils traînent ici-bas le sombre accablement d'être en ne pensant pas. Ils s'appellent vulgus, plèbe, la tourbe, la foule. Ils sont ceux qui murmurent, applaudissent, sifflent, coulent, bat des mains, foule aux pieds, baillent, dit oui, dit non. N'a jamais de figure et n'a jamais de nom. Troupeau qui va, revient, juge, absout, délibère, détruit, prêt à Marat comme prêt à Tibère. Foule triste, joyeuse, habits dorés, bras nus, pêle-mêle et poussée aux gouffres inconnus. Ils sont les passants froids sans but, sans nœud, sans âge, le bas du genre humain qui s'écroule en nuages, ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on ne compte pas, ceux qui perdent les mots, les volontés, les pas. L'ombre obscure autour d'eux se prolonge et recule, ils n'ont du plein midi qu'un lointain crépuscule, car jetant au hasard les cris, les voix, le bruit, ils errent près du bord sinistre de la nuit. Quoi ? Ne point aimer ? Suivre une morne carrière, sans un songe en avant, sans un deuil en arrière? Quoi, marcher devant soi sans savoir où l'on va? Rire de Jupiter sans croire à Jéhovah? Regarder sans respect l'astre, la fleur, la femme? Toujours vouloir le corps, ne jamais chercher l'âme? Pour de vains résultats faire de vains efforts? N'attendre rien d'en haut, ciel? Oublier les morts? Oh non, je ne suis point de cela. Grand, prospère, fier, puissant, ou caché dans d'immondes repères, je les fuis et je crains leur sentier détesté. Et j'aimerais mieux être, ô fourmis des cités, tourbe, foule, homme faux, cœur mort, race déchue, un arbre dans les bois qu'une âme dans vos cohues. Hugo fut adulé par de nombreux jeunes écrivains de l'époque. La révolutionnaire Louise Michel en faisait partie. Cet indigné avant l'heure est né en 1830 de parents inconnus. Très impliquée dans les mouvements politiques parisiens et grande lectrice, elle a 20 ans quand elle décide d'adresser une lettre à son maître de pensée, Victor Hugo. Dès lors, une amitié épistolaire s'établit entre eux. Louise Michel deviendra plus tard, comme son idole, une femme engagée. Elle publie notamment des articles dans des revues et prend la tête des combats pendant la Commune. Au printemps 1871, une légende est née. Arrêtée et emprisonnée, elle sera déportée en Nouvelle-Calédonie pendant 7 ans. 7 longues années durant lesquelles elle ne rêvait que de liberté. Voici un poème qu'elle écrit certainement en détention, Hirondelle.
Hirondelle qui vient de la nuit orageuse, Hirondelle fidèle, où vas-tu? Dis-le-moi. Quelle brise t'emporte, errante voyageuse? Écoute, je voudrais m'en aller avec toi, bien loin d'ici, vers d'immenses rivages, vers de grands rochers nus, des grèves, des déserts, dans l'inconnu muet, ou bien vers d'autres âges, vers les astres errants qui roulent dans les airs. Ah, laisse-moi pleurer, pleurer quand de tes ailes tu rases l'herbe verte et qu'au profond concert des forêts et des vents tu réponds des tourelles avec ta rauque voix, mon doux oiseau des mers. Hirondelle aux yeux noirs, hirondelle, je t'aime. Je ne sais quel écho par toi m'est apporté des rivages lointains. Pour vivre, loi suprême, il me faut, comme à toi, l'air et la liberté.
Quelques années plus tard, dans l'actuelle Géorgie, vient au monde un futur grand révolutionnaire, poète et dramaturge. Il s'appelle Vladimir Maïakovski. Louis Aragon, qui le connaissait bien, disait de lui qu'il était, je cite, « le poète qui a su faire de la poésie une arme ». Et effectivement, quand on parcourt son œuvre, on trouve des textes d'une énergie inhabituelle. Des poèmes lumineux et enthousiastes qui exaltent la révolution d'octobre, celle qui a vu l'avènement des bolcheviks en 1917. Voici quelques-uns de ses poèmes, écrits entre 1914 et 1925, et extraits du recueil « Écoutez si on allume les étoiles », publié aux éditions Le Temps des cerises.
Écoutez, si on allume les étoiles, c'est donc à quelqu'un nécessaire. C'est que quelqu'un nomme perle ses crachats, et déchirant la tempête au midi des poussières, il se précipite vers Dieu, craint d'être en retard, pleure, baise sa main noueuse, implore, il lui faut absolument une étoile, jure qu'il ne supporte pas ce martyr sans étoile, et après marche de long en large, avec inquiétude, calme pourtant, en apparence. Il dit à quelqu'un, « Alors ça va maintenant? T'as plus peur? Hein ?» Écoutez, si on allume les étoiles, c'est que c'est à quelqu'un nécessaire, c'est qu'il est indispensable que chaque soir, par-dessus les toits, s'allume au moins une étoile.
Désembourber l'avenir.
Le futur ne viendra pas tout seul si nous ne passons pas aux actes. Attrape-le par les ouïes, attrape-le par la queue, pionnier. La Commune n'est pas une princesse de conte de fées dont on rêve la nuit.
calcule, réfléchit, vise juste et progresse, même dans les petites choses. Le communisme, ce n'est pas seulement la terre, la sueur des usines. C'est chez toi aussi, à table, dans les relations, la famille, les comportements. Celui qui, à longueur de journée, grince et jure comme une charrette mal graissée, celui qui se pâme quand la balalaïka gémit, celui-là n'a pas encore la taille qu'il faut pour l'avenir. Jouer de la mitrailleuse sur le front, ce n'est pas seulement ça, la guerre. Le guet-apens de la famille et du foyer, pour nous, n'est pas la moindre des menaces. Celui qui n'a pas résisté à l'empire domestique et dort dans la douceur des roses de papier, celui-là n'a pas encore la taille de la vie puissante du futur. Comme une pelisse, le temps aussi se fait dévorer par les mythes du quotidien. Le vêtement poussiéreux de nos jours, à toi de le secouer.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminée muette, portail verrouillé. Wagons immobiles, tours abandonnées. Plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts. Bouffé par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Et main d'or, j'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir.
Après l'horreur de la Première Guerre mondiale, la figure du poète est affaiblie et cherche un moyen de continuer à créer. C'est souvent à travers la thématique de l'amour qu'il trouvera l'énergie d'écrire. La preuve avec le dernier poème des Calligrammes de Guillaume Apollinaire. Apollinaire a combattu dans les tranchées et a été gravement blessé à la tête. Il écrit ce très beau texte quelques semaines avant de mourir et il l'adresse à la nouvelle femme de sa vie. Ce n'est plus la Louise des poèmes à Lou, mais Jacqueline, qui lui redonne espoir en la vie. Voici la jolie rousse. Me voici devant tous un homme plein de sens, connaissant la vie et de la mort ce qu'un vivant peut connaître, ayant éprouvé les douleurs et les joies de l'amour, ayant su quelquefois imposer ses idées, connaissant plusieurs langages, ayant pas mal voyagé, ayant vu la guerre dans l'artillerie et l'infanterie, blessé à la tête, trépané sous le chloroforme, ayant perdu ses meilleurs amis dans l'effroyable lutte, je sais d'anciens et de nouveaux autant qu'un homme seul pourrait des deux savoir. Et sans m'inquiéter aujourd'hui de cette guerre, entre nous et pour nous, mes amis, je juge cette longue querelle de la tradition et de l'invention de l'ordre et de l'aventure, vous dont la bouche est faite à l'image de celle de Dieu, bouche qui est l'ordre même, soyez indulgents quand vous nous comparez à ceux qui furent la perfection de l'ordre, nous qui quêtons partout l'aventure. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous voulons nous donner de vastes et d'étranges domaines où le mystère en fleurs s'offre à qui veut le cueillir. Il y a là des feux nouveaux, des couleurs jamais vues, mille fantasmes impondérables auxquels il faut donner de la réalité. Nous voulons explorer la bonté, contrée énorme, où tout se tait. Il y a aussi le temps qu'on peut chasser ou faire revenir. Pitié pour nous, qui combattons toujours aux frontières de l'illimité et de l'avenir. Pitié pour nos erreurs, pitié pour nos péchés. Voici que vient l'été, la saison violente, et ma jeunesse est morte ainsi que le printemps. Ô soleil, c'est le temps de la raison ardente, et j'attends, pour la suivre toujours, la forme noble et douce qu'elle prend afin que je l'aime seulement. Elle vient et m'attire ainsi qu'un fer l'aimant. Elle a l'aspect charmant d'une adorable rousse. Ses cheveux sont d'or, on dirait, un bel éclair qui durerait, ou ses flammes qui se pavanent dans les roses thés qui se fanent. Mais riez de moi, hommes de partout, surtout gens d'ici, car il y a tant de choses que je n'ose vous dire, tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire. Ayez pitié de moi. Apollinaire meurt en 1918. Deux ans plus tard, un jeune poète autodidacte fait son entrée dans le mouvement surréaliste aux côtés de Breton, Éluard et Aragon. Je veux parler de Robert Desnos, dont nous commémorons cette année les 70 ans de sa disparition. Lecteur de Fantomas et de la célèbre bande dessinée Les Pieds Nickelés, Desnos est un audacieux et un touche-à-tout. Dessinateur, journaliste et scénariste, il aime aussi écrire des chansons et bien sûr des poèmes. Le faiseur d'épopées, comme le qualifiait Michel Léris, est aussi un résistant qui sera arrêté par la Gestapo le 22 février 1944. Déporté au camp de Térézine, il meurt quelques jours après le débarquement des Alliés le 8 juin 1945. Aujourd'hui, ses poèmes n'ont rien perdu de leur force. Obstiné, le poète crie haut et fort l'importance de la liberté. Voici quelques extraits du recueil « Ce cœur qui haïssait la guerre ». Et nous commençons par le premier poème de l'ouvrage.
Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit, voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine, et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent, et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne, comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends qui me revient renvoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au même rythme, pour la même besogne, tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises. Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d'ordre. Révolte contre Hitler et mort à ses partisans. Pourtant, ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères. Et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera. Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté, au rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit.
Voici maintenant la voix du veilleur du pont au change. Je suis le veilleur du pont au change, veillant au cœur de Paris dans la rumeur grandissante, où je reconnais les cauchemars paniques de l'ennemi, les cris de victoire de nos amis et ceux des Français, les cris de souffrance de nos frères torturés par les Allemands d'Hitler. Je suis le veilleur du pont au change, ne veillant pas seulement cette nuit sur Paris, cette nuit de tempête sur Paris seulement dans sa fièvre et sa fatigue, mais sur le monde entier qui nous environne et nous presse. Dans l'air froid, tous les fracas de la guerre cheminent jusqu'à ce lieu où depuis si longtemps vivent les hommes. Des cris, des chants, des râles, des fracas, il en vient de partout. Victoire, douleur et mort, ciel couleur de vin blanc et de thé, des quatre coins de l'horizon à travers les obstacles du globe, avec des parfums de vanille, des terres mouillées de sang, d'eau salée, de poudre et de bûcher, de baisers d'une géante inconnue, enfonçant à chaque pas dans la terre grasse de chair humaine. Je suis le veilleur du pont au change et je vous salue au seuil du jour promis. Vous tous, camarades de la rue de Flandre, à la poterne des peupliers, du point du jour à la porte dorée. Je vous salue, vous qui dormez, après le dur travail clandestin, imprimeur, porteur de bombes, déboulonneur de rails, incendiaire, distributeur de tracts, contrebandier, porteur de messages, je vous salue, vous tous qui résistez, enfants de 20 ans ou sourires de source, vieillards plus chenus que les ponts, hommes robustes, images des saisons, je vous salue au seuil du nouveau matin. Je vous salue sur les bords de la Tamise, camarades de toutes nations présents au rendez-vous, dans la vieille capitale anglaise, dans le vieux Londres et la vieille Bretagne, américains de toute race et de tout drapeau, au-delà des espaces atlantiques, du Canada au Mexique, du Brésil à Cuba, camarades de Rio, de Tehoutépec, de New York et San Francisco. J'ai donné rendez-vous à toute la terre sur le pont au change, veillant et luttant comme vous. Tout à l'heure, prévenu par son pas lourd sur le pavé sonore, moi aussi, j'ai abattu mon ennemi. Il est mort dans le ruisseau, l'Allemand d'Hitler, anonyme et haï. La face souillée de boue, la mémoire déjà pourrissante. Tandis que déjà j'écoutais vos voix des quatre saisons, amis, amis et frères des nations amies. J'écoutais vos voix dans le parfum des orangers africains, dans les lourds relents de l'océan Pacifique, blanche escadre de mains tendues dans l'obscurité, hommes d'Alger, Honolulu, Chongqing, hommes de Fès, de Dakar et d'Ajaccio. Enivrante et terrible clameur, rythme des poumons et des cœurs, du front de Russie flambant dans la neige, du lac Ilem à Kiev, du Dnieper au Pripet, vous parvenez à moi, né de millions de poitrines. Je vous écoute et vous entends. J'entends vos voix et vous appelle. Je vous appelle dans ma langue connue de tous, une langue qui n'a qu'un mot, liberté. Desnos était surnommé Robert le Diable par son ami Aragon, autre grand poète de l'insurrection. Dans le recueil Les yeux et la mémoire, paru en 1954, Aragon se pose en homme révolté qui ne regrette rien, ni ses engagements, ni ses renoncements.
Vous savez, je m'étais toute la vie juré une chose. Après la guerre de 14-18, j'ai ressenti comme une humiliation que je partageais le fait que le peuple français ait pu laisser s'établir la guerre de 14-18 sans avoir protesté contre, ou enfin, n'y avoir apporté à cette protestation que de très faibles forces. Je m'étais juré que si mon pays devait être entraîné dans une nouvelle guerre de ce caractère, au moins quelqu'un dans mon pays élèverait la voix contre. Et la forme que ma poésie a pris était une forme destinée à être entendu par un plus grand nombre de gens possible.
Il y a un très beau poème qui a pour titre « Que la vie en vaut la peine » et dans lequel Aragon parle d'espoir. Ici, le poète se révolte contre le temps et contre la mort.
C'est une chose étrange à la fin que ce monde. Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie, la nuit immense et noire aux déchirures blondes. Rien n'est si précieux peut-être qu'on le croit. D'autres viennent. Ils ont le cœur que j'ai moi-même. Ils savent toucher l'herbe et dire « je vous aime » et rêver dans le soir où s'éteignent des voix. D'autres qui referont comme moi le voyage, d'autres qui souriront d'un enfant rencontré, qui se retourneront pour leur nom murmuré, d'autres qui lèveront les yeux vers les nuages. Il y aura toujours un couple frémissant pour qui ce matin-là sera l'aube première. Il y aura toujours l'eau, le vent, la lumière. Rien ne passe après tout, si ce n'est le passant. C'est une chose au fond que je ne puis comprendre, cette peur de mourir que les gens ont en eux. Comme si ce n'était pas assez merveilleux que le ciel, un moment, nous ait paru si tendre. Oui, je sais, cela peut sembler court, un moment. Nous sommes ainsi faits que la joie et la peine fuient comme un vin menteur de la coupe trop pleine. Et la mer à nos soifs n'est qu'un commencement. Mais pourtant, malgré tout, malgré les temps farouches, le sac lourd à l'échine et le cœur dévasté, cet impossible choix d'être et d'avoir été, et la douleur qui laisse une ride à la bouche, malgré la guerre et l'injustice et l'insomnie où l'on porte rongeant votre cœur ce renard, l'amertume et Dieu, si je l'ai pour ma part, porté comme un enfant volé toute la vie, malgré la méchanceté des gens et les rires quand on trébuche et les monstrueuses raisons qu'on vous oppose pour vous faire une prison de ce qu'on aime et de ce qu'on croit un martyr, malgré les jours maudits qui sont des puits sans fond, malgré ces nuits sans fin à regarder la haine, malgré les ennemis, les compagnons de chaîne, mon Dieu, qui ne savent pas ce qu'ils font, malgré l'âge, et lorsque soudain le cœur vous flanche, l'entourage prêt à tout croire, à donner tort, indifférent à cette chose qui vous mord, simple histoire de prendre sur vous sa revanche, la cruauté générale et les saloperies qu'on vous jette, on ne sait trop qui faisant école, malgré ce qu'on a pensé, souffert, les idées folles, sans pouvoir soulager d'une injure ou d'un cri cet enfer, malgré tout cauchemar et blessures, les séparations, les deuils, les camouflets, et tout ce qu'on voulait pourtant, ce qu'on voulait de toute sa croyance imbécile à l'azur, malgré tout, je vous dis que cette vie fut telle qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre un seul mot que « merci », je dirais malgré tout que cette vie fut belle.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal. Découvrons maintenant un poète assez méconnu en France et pourtant c'est l'un des plus grands poètes grecs contemporains. Voici Yannis Ritsos.
Τον κρατάς όπως κρατάς το χέρι του φίλου σου και μετράς το σφιγμό του πάνω σε τούτο το σημάδι που άφησαν οι χειροπέδες.
Il se fait connaître au milieu des années 30 grâce à son poème « Épitaphe », inspiré de la répression sanglante d'un mouvement ouvrier dans son pays.
Σίγουρο χέρι, κανονικός σφιγμός,
Le poème déclenchera une telle polémique qu'il sera brûlé en place publique avec les ouvrages de Lénine, Marx, Gorki ou encore Anatole France. Son engagement le mènera derrière les barreaux. Arrêté pendant le putsch des colonels en 1967, il continue d'écrire une poésie de combat, parlant avec beaucoup de simplicité du quotidien, de l'amour et de la liberté. Voici plusieurs poèmes extraits du recueil « Tard, bien tard dans la nuit », paru aux éditions Le Temps des Cerises. Un ouvrage qui réunit les derniers textes de Ritsos, écrits juste avant sa mort, entre 1987 et 1988. C'est beau ce bateau qui sort du port, sa fumée rose dans la poussière dorée du soir. Donc, quels que soient les refus que tu as essuyés ou imposés, une maison blanche dans la colline sollicite ton regard. Un enfant trempe ses pieds dans la mer en souriant. Un oiseau, la nuit, chante aussi pour toi. Eh bien, ajournons à nouveau. Intronisons ce petit papillon sur la vitre fêlée.
Réponse évasive. D'où vient cette tristesse mêlée de colère? Dès l'aube, avant même que tu ne te lèves, avant que tu boives ton café, les moineaux entament leurs trilles ineptes. Dans le jardin en friche, seules les roses proclament leur couleur. Les abeilles et les papillons s'assemblent par nuées. Chacun a sa tâche. La sirène du bateau retentit. Les uns débarquent, d'autres s'en vont. Il ne reste que cette tristesse mêlée de colère. Ah, la beauté qui donnait un sens à tout cela, où est-elle cachée? Hier soir, au couchant, nous avons vu flotter près du rivage trois cygnes massacrés.
Dans ces circonstances, la poésie est-elle encore possible? Peut-être. Voici ce qui reste. Après tant de pluies de bombes, seul un mur de la grande église est resté intact, avec sa fenêtre haute, intact aussi le beau vitrail de la fenêtre, dans des couleurs mauve, orange, bleu, rouge, et des représentations de fleurs, d'oiseaux et de saints. C'est pour ça que je me suis confié de nouveau au poème. Restons au bord de la Méditerranée avec un poète turc, Nazım Hikmet. Son œuvre entière est un appel à la rébellion. Communiste à 20 ans, étudiant en sociologie, il côtoie les intellectuels du début du XXe siècle, dont Mayakovsky. Mais son militantisme politique le conduit aux tribunaux. Il passera près de 14 ans en prison et sera finalement obligé de s'exiler en Union soviétique. Ses poèmes, écrits pour la plupart d'entre eux derrière les barreaux, oscillent entre souffrance et optimisme. En voici quelques-uns. Extrait du recueil « Il neige dans la nuit » et autres poèmes publiés chez Gallimard. Sur la vie. La vie n'est pas une plaisanterie. Tu la prendras au sérieux, comme le fait l'écureuil par exemple, sans rien attendre hors de la vie, ni au-delà de la vie. C'est-à-dire, vivre sera tout ton souci. La vie n'est pas une plaisanterie. Tu la prendras au sérieux. Mais au sérieux à tel point que les mains liées, par exemple, dos au mur, ou dans un laboratoire en blouse blanche avec d'énormes lunettes, tu mourras pour que vivent les hommes dont tu n'auras même pas vu le visage. Et tu mourras tout en sachant que rien n'est plus beau, que rien n'est plus vrai que la vie. Tu la prendras au sérieux. Mais au sérieux à tel point qu'à 70 ans, par exemple, tu planteras des oliviers. Non pour qu'en héritent tes enfants, non, mais parce que tu ne croiras pas à la mort tout en la redoutant, mais parce que la vie pèsera plus lourd dans la balance. Trois pages plus loin, voici...
De la vie. Ce monde refroidira. Étoile parmi les étoiles, et même des plus petites. Une pépite d'or sur fond de velours bleu, en somme. Notre univers immense, en somme. Ce monde un beau jour refroidira, même pas comme un bloc de glace ou un nuage mort. Il roulera comme une coquille de noix vide dans l'obscurité sans bornes ni limites. Dès maintenant, tu en éprouveras la douleur. Tu en ressentiras la tristesse dès maintenant. C'est ainsi que tu dois aimer le monde, pour pouvoir dire « j'ai vécu ».
Ne jamais se rendre, continuer à lutter, c'est la tâche que s'est donnée Aimé Césaire dans son célèbre « Cahier d'un retour au pays natal ». Dans ce long poème en trois actes, Césaire prend conscience de son appartenance à un peuple, à la grande race noire. Revenu dans son pays natal après plusieurs années d'exil en Europe, le poète salue la beauté de ces âmes jadis persécutées par les Blancs et se pose en porte-voix de tous ses frères. Partir. Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. L'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. On pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer, parfaitement le tuer, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne. Mais est-ce qu'on tue le remords ? Beau comme la face de stupeur d'une dame anglaise qui trouverait dans sa soupière un crin d'eau tantôt. Je retrouverai le secret des grandes communications et des grandes combustions. Je dirais orage, je dirais fleuve, je dirais tornade, je dirais feuille, je dirais arbre. Je serai mouillé de toutes les pluies, humecté de toutes les rosées. Je roulerai comme du sang frénétique sur le courant lent de l'œil des mots, en chevaux fous, en enfants frais, en cailloux, en couvre-feu, en vestiges de temps, en pierres précieuses assez loin pour décourager les mineurs. Qui ne me comprendrait pas, ne comprendrait pas davantage le rugissement du tigre. Et vous, fantômes, montez, bleus de chimie, d'une forêt de bêtes traquées, de machines tordues, d'un jujubier, de chair pourrie, d'un panier d'huîtres, Dieu, d'un lacis de lanière découpé dans le beau sisal d'une peau d'homme, j'aurai des mois assez vastes pour vous contenir. Et toi, terre tendue, terre saoule, terre grand sexe levé vers le soleil, terre grand délire de la mantule de Dieu, terre sauvage montée des resserres de la mer avec dans la bouche une touffe de sécropie. Terre dont je ne puis comparer la face houleuse qu'à la forêt vierge et folle que je souhaiterais pouvoir en guise de visage montrer aux yeux un déchiffreur des hommes. Il me suffirait d'une gorgée de ton lait pour qu'en toi je découvre toujours à même distance de mirage la terre où tout est libre et fraternel. Ma terre. Partir. Mon cœur bruissait de générosité emphatique. Partir, j'arriverai lisse et jeune dans ce pays mien, et je dirai à ce pays dont le limon entre dans la composition de ma chair, j'ai longtemps erré et je reviens vers la hideur désertée de vos plaies. Je viendrai à ce pays mien et je lui dirai, embrassez-moi sans crainte, et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Et je lui dirai encore, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Et venant, je me dirai à moi-même, et surtout mon corps aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle, car une mère de douleur n'est pas un proscénium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Que de sang dans ma mémoire. Dans ma mémoire sont des lagunes. Elles sont couvertes de têtes de mort. Elles ne sont pas couvertes de nénuphars. Dans ma mémoire sont des lagunes. Sur leurs rives ne sont pas étendues des pagnes de femmes. Ma mémoire est entourée de sang. Ma mémoire a sa ceinture de cadavres. Non, nous n'avons jamais été Amazone du roi, du Dahomey, ni prince de Ghana avec 800 chameaux, ni docteur à Tombouctou, ni architecte de Djéné, ni guerrier. Nous ne sentons pas sous les selles la démangeaison de ceux qui tinrent jadis la lance. Et puisque j'ai juré de ne rien sceller de notre histoire, je veux avouer que nous fûmes de tout temps d'assez piètres laveurs de vaisselle, des cireurs de chaussures sans envergure. Mettons les choses au mieux, d'assez consciencieux sorciers, et le seul indiscutable record que nous ayons battu est celui d'endurance à la chicotte. Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes, que les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la nègrerie, que nous sommes un fumier ambulant, hideusement prometteur de canne tendre et de coton soyeux, où l'on nous marquait au fer rouge, et nous dormions dans nos excréments, et l'on nous vendait sur les places, et l'aune de drap anglais et la viande salée d'Irlande coûtaient moins cher que nous, et ce pays était calme, tranquille, disant que l'Esprit de Dieu était dans ses actes. Nous, vomissures de négriers, quoi, se boucher les oreilles? Nous, saoulés à crever de roulis, de risées et de brumes humées? J'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquetements des mourants, le bruit d'un qu'on jette à la mer, des raclements d'ongles cherchant des gorges, des ricanements de fouet, des farfouillis de vermine parmi des lassitudes. Mais quel étrange orgueil soudain m'illumine. Vienne le colibri, vienne l'épervier, vienne le bris de l'horizon, vienne le lotus porteur du monde, vienne des dauphins, une insurrection perlière brisant la coquille de la mer, vienne un plongeon d'île, vienne la disparition des jours de chair morte dans la chaux vive des rapaces. Ô lumière amicale, ô fraîche source de lumière, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre.
Ce village a toujours été dominé, si vous voulez, par le trio. Le gendarme,
Aimé Césaire,
qui est un grand personnage, le curé, qui est un très haut personnage spirituel, et puis le colon que nous appelons là-bas le béquet. C'est le créole, c'est le blanc qui est né aux Antilles. Dans le village, si vous voulez, il y avait trois blancs qui vraiment formaient l'aristocratie. Et j'ai perçu ça très tôt, je suis persuadé que ça a certainement contribué, non pas à former ma pensée, mais en tout cas certainement, ça m'a ouvert les yeux sur une certaine réalité.
Il y a une voix poétique, une voix de femme qu'il nous faut absolument citer. C'est celle de la poétesse André Chédide.
La poésie, c'est universel, André Chédide. On s'aperçoit qu'elle existe partout et toujours.
Elle existe, elle est en chacun de nous. C'est la réalité, je veux dire, il n'y a pas de réalité sans poésie. Je crois que la vie est composée de réalité et d'imaginaire, de réel et d'irréel. Donc la poésie est toujours incluse dans tous nos actes. Moi, je crois qu'on ne s'en rend pas compte. Et que les poètes essayent un petit peu d'exprimer cette seconde vie, presque.
Né au Caire d'un père libanais, André Chédide s'installe à Paris en 1946. À travers ses nombreux poèmes, elle n'aura cessé de défendre l'amour et l'altérité, les deux valeurs qui fondent son humanisme. Sa prose est libre, sensuelle, et nous invite à profiter de chaque instant de la vie. Je vous propose d'en écouter quelques fragments piochés dans différents recueils, mais que l'on peut trouver regroupés dans le livre « Au cœur du cœur », paru dans la collection Librio. Commençons par « Révolte ».
Au bout du geste creux, et de l'humbles regards, tout au bout des cœurs là, des sommeils sans images, au bout des aubes rances et des chemins sans foi, dévastant les plaines du silence, l'œil dans l'œil de la mort, il y a ma révolte. Résonnante et drue, les forces de ma révolte, dévastant les plaines du silence, l'œil dans l'œil de la mort.
Voici maintenant Oser encore. Oser encore recourir au visage. Oser encore. Que brasses-tu, ami, qui ne s'écarte? Où souhaiter la tendre halte, si ce n'est avec l'autre, plus d'une fois accordé? Quel chemin, ami, ne se conteste? Quel chant ne rompt le tocsin? En quelle terre fugace reprendre vie, si ce n'est en l'autre, par-delà le soupçon? Oser encore recourir à l'espoir, oser encore porter l'instant et le rendre à lui-même, répondre quel qu'il soit, au baiser de la terre, vouloir ce plus loin dont on ne sait le nom.
La poésie suggère. En cela, elle est plus proche qu'on ne pense de la vie, qui est toujours en deçà de l'instant qui frappe.
Nous ne donnons rien aux poèmes qu'ils ne nous rendent au centuple. Nous croyons le faire, c'est lui qui secrètement nous fait.
Mystérieuse, mystérieuse, mystérieuse colère de la terre, la nuit disparaître en douceur, la nuit ne laisser aucune trace, la nuit la joie des jeunes aveugles, la nuit un seul souffle.
Mystérieuse.
Et pour conclure ce moment de poésie, voici un court texte du poète Eugène Guillevic, intitulé « Exposé 15, extrait de Terre à bonheur ».
Douceur. Je dis douceur. Je dis douceur des mots. Quand tu rentres le soir du travail harassant et que des mots t'accueillent, qui te donnent du temps. Car on tue dans le monde et tout massacre nous vieillit. Je dis douceur. Pensant aussi à des feuilles en voie de sortir du bourgeon, à des cieux, à de l'eau dans les journées d'été, à des poignées de main. Je dis douceur, pensant aux heures d'amitié, à des moments qui disent le temps de la douceur venant pour tout de bon, cet air tout neuf qui pour durer s'installera.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Marie Le Peintre. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Merci beaucoup Clotilde de m'avoir accompagnée ce soir.
Merci.
Et un grand merci à notre amie du Printemps des Poètes, Christine Delterme, toujours fidèle. Rendez-vous sur le site internet de l'émission pour retrouver toutes les références des poèmes lus à l'antenne. www.franceinter.fr. Bonne soirée, à la semaine prochaine.